Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Face au chaos des évacuations à Kaboul et sous pression de ses alliés, le président américain Joe Biden a ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au-delà de la date prévue du 31 août, en évoquant des discussions en cours côté américain à ce sujet, tout en déclarant « nous espérons ne pas avoir à prolonger ». Quelques 28 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août, a déclaré hier M. Biden. C'est une incroyable opération, a-t-il souligné. Nous travaillons dur et aussi vite que possible pour évacuer les gens, a-t-il ajouté, assurant que ces évacuations auraient été difficiles et douloureuses, même si elles avaient été démarrées il y a un mois. Hier, Londres a annoncé la mort de 7 Afghans dans la cohue à l'aéroport de Kaboul. La veille, Sky News avait montré les images d'au moins 3 corps. Une semaine après la prise du pouvoir par les talibans, des milliers de personnes tentaient encore dimanche de fuir le pays et le chaos régnait toujours à l'aéroport de Kaboul. Nous avons fait un certain nombre de changements, y compris en étendant l'accès autour de l'aéroport et la zone de sécurité, a déclaré le président Biden sans donner plus de précisions. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé à Washington lors d'une visite ce mois-ci aux États-Unis de lever son blocage pour l'acquisition d'un avion militaire de transport qui aurait dû être livré en août. Selon un communiqué de l'ambassade malienne rendu public dimanche, M. Diop a sollicité l'accompagnement des États-Unis pour faire face à l'ensemble des défis auxquels le Mali est confronté au lieu de se focaliser uniquement sur le financement des élections. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé rassure la population après un cas suspect de fièvre hémorragique au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, où a été admis dimanche un patient âgé de 22 ans. Ce dernier est arrivé dans le pays il y a 2 jours en provenance de Niankaré-Kadiolo en Côte d'Ivoire. Le patient a été immédiatement isolé conformément aux normes recommandées et une démarche diagnostique et de prise en charge sont en cours, dit le ministre. Au Nigeria, des hommes armés qui avaient kidnappé le 5 juillet 121 lycéens dans un pensionnat de l'État de Kaduna ont libéré 15 élèves supplémentaires après avoir perçu une rançon, a-t-on appris hier auprès d'un représentant des familles. Le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Barkindo, est depuis hier soir au Congo-Brazzaville, première visite d'un responsable de l'organisation dans ce pays, quatrième producteur de pétrole, au sud du Sahara. Arrestation, interdiction de voyage et assignation à résidence visant magistrats, députés et hommes d'affaires, la purge anticorruption enclenchée par le président de la Tunisie depuis son coup de force de juillet suscite inquiétude et crainte d'un recul des libertés, rapporte l'AFP. En Haïti, le bilan du séisme qui a ravagé ce pays le 14 août s'est alourdi avec l'annonce par les autorités dimanche d'au moins 2207 morts, 344 personnes disparues et 12268 blessés dans le sud-ouest où l'aide parvient lentement aux sinistrés. Des inondations catastrophiques dans le Tennessee, ici aux États-Unis, ont fait au moins 21 morts, ont rapporté dimanche les autorités de cet État du Sud, et des dizaines de personnes restées recherchées, selon plusieurs médias locaux, suite aux pluies qualifiées d'historiques de samedi. Par ailleurs, plus de 100 000 habitants du nord-est des États-Unis étaient dimanche sans électricité au passage de la tempête Henry, selon un site spécialisé, tandis que le président Joe Biden appelait à la prudence face notamment au risque d'inondation. Israël a lancé dimanche une campagne de tests sérologiques anti-coronavirus pour les enfants de 3 ans et plus afin d'étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire. la suite de nos informations. En République démocratique du Congo, un deuxième militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement a été arrêté hier. Début juin, la Lucha a accusé la fondation de l'épouse du président Félix Tshisekedi de détournement. Claire Morin-Gibourg.
Le militant de la Lucha, Guilin Mouiwa, a été interpellé par des policiers à son domicile à Goma dimanche à la mi-journée, ont indiqué des proches. Il est actuellement détenu à l'auditorat militaire du Nord Kivu. Monsieur Mouiwa est poursuivi pour diffamation par la fondation de Denise Nyakeru Tshisekedi après un tweet le 4 juin de la Lucha qui accusait cette fondation d'avoir détourné une partie des vivres destinés aux sinistrés de l'éruption du 22 mai du volcan Nyiragongo. Son collègue Parfait Mouani, autre militant de la Lucha, avait été arrêté le 7 juillet et reste emprisonné pour la même raison. Un troisième militant est également recherché dans le même dossier, mais n'a pas été retrouvé à ce stade. Créé en 2012 à Goma, le mouvement citoyen Lucha, apolitique et non-violent, se dit déterminé à demander des comptes au pouvoir et aux décideurs.
En Afghanistan, la situation est toujours chaotique à l'aéroport de Kaboul où les évacuations aériennes se poursuivent. Dans le même temps, les talibans au pouvoir ont annoncé le lancement d'une offensive d'envergure contre la seule zone qui leur résiste encore, la vallée du Panjshir. Michel Joseph.
Des centaines de moudjahidines de l'Émirat islamique se dirigent vers l'état du Panjshir pour le contrôler, après que des responsables locaux ont refusé de le remettre de façon pacifique, ont indiqué les talibans sur leur compte Twitter en arabe. Les talibans sont entrés le 15 août à Kaboul sans rencontrer de résistance à l'issue d'une offensive éclair entamée en mai à la faveur du début du retrait des forces américaines et de l'OTAN. Une poche de résistance s'est formée dans la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul, longtemps connue comme un bastion anti-taliban. Le FNR, ou Front National de Résistance, est notamment dirigé par Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud, assassiné en 2001 par Al-Qaïda. Un porte-parole du FNR a déclaré que des milliers d'Afghans ont rejoint la vallée du Panjshir pour combattre le nouveau régime. Selon lui, le front se prépare à un conflit de longue durée avec les talibans.
L'artiste franco-américaine Josephine Baker, décédée le 12 avril 1975 en France, fera son entrée au Panthéon le 30 novembre, rejoignant ainsi les grandes personnalités qui y sont inhumées. Toutefois, le corps de Josephine Baker restera à Monaco où il est enterré au cimetière marin, a précisé à l'AFP un de ses enfants. Ce sera un cénotaphe avec une plaque, comme pour Aimé Césaire et d'autres personnalités, a-t-il ajouté. Josephine Baker sera la sixième femme, mais la première noire à y être inhumée, Claire Morin-Gibourg.
Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, militante antiraciste et artiste célèbre, Josephine Baker entrera le 30 novembre au Panthéon, ce mausolée parisien dédié aux personnages ayant marqué l'histoire de France. Josephine Baker n'est que la sixième femme à y être inhumée et la première femme noire. Née dans le Missouri en 1906 dans un milieu très pauvre, Josephine Baker fuit le domicile familial en suivant une troupe de vaudevilles noires. Remarquée par un producteur, elle part pour Paris où à 19 ans, elle devient une star de la Revue Nègre, spectacle musical qui a contribué à populariser en France le jazz et la culture noire américaine. Meneuse de revue, icône de cabaret, chanteuse, elle sera l'artiste la mieux payée du music hall parisien. Dès 1939, elle s'engagera dans la résistance, dans l'armée française. Josephine Baker a aussi été active aux côtés de Martin Luther King dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Togo, la fin de l'identification des abonnés de téléphonie mobile prévue ce lundi est repoussée au 29 octobre, indique l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette opération visant à limiter le nombre de cartes SIM à 3 par abonné et par opérateur permettra au pays de se conformer aux obligations réglementaires internationales. Au Gabon, l'opérateur télécom Airtel a lancé une enquête sur un réseau frauduleux qui tente de saisir les informations monétaires des clients de son service mobile monnaie. Lors d'appels téléphoniques, des individus disent devoir réinitialiser les cartes SIM des utilisateurs. La compagnie met en garde contre ces appels, soulignant que la réinitialisation de la carte SIM ne peut se faire qu'en agence et seulement sur demande du client. L'Égypte va remplacer 1,5 million de lampadaires publics par des systèmes plus économes en énergie, indique le ministère du Développement local. Les nouveaux lampadaires émettent un faisceau lumineux plus intense tout en consommant moins d'énergie. 6 provinces, dont celle du Caire, ont déjà bénéficié de ce programme qui a permis d'économiser 603 millions de dollars. En tout, plus de 4 millions de lampadaires auront été changés.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football sur sable avec le mondial de beach soccer en Russie et 2-2 pour le Sénégal.
Oui, après avoir battu d'entrée l'Uruguay, les Lions de sable sénégalais ont enchaîné hier face aux champions du monde portugais, score 5-3, validant ainsi leur ticket pour les quarts de finale. Les septuples champions d'Afrique visent désormais loin, à entendre Ibrahim Ndiaye, le manager général de l'équipe.
Vraiment, les garçons ont été à la hauteur. Franchement, le match qu'ils ont produit aujourd'hui encore, ben, prouve encore une fois de plus que quand même impossible n'est pas sénégalais. Vraiment, on a perdu quand même la mémoire de la maman de ce garçon. Et vraiment, les garçons, ce qu'ils ont montré aujourd'hui prouve que quand même, il y a de l'espoir. Hein, celui qui bat quand même le champion du monde, en principe, doit être le champion du monde. Et j'espère bien qu'au soir du 29, Inch'Allah, ben on sera champion du monde. Mais en attendant, il y a quand même des marches à franchir.
À l'instant, Ibrahima Ndiaye, manager général de l'équipe de beach soccer du Sénégal, au micro d'Amédine Sy. Le second représentant africain, le Mozambique, battu d'entrée par l'Espagne, s'est repris en disposant des Émirats arabes unis score 4-2. Les Mamas cadent leur chance de qualification pour le second tour en cas de victoire contre Tahiti.
Sur le gazon à présent, avec les éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, Costa Rica 2022, le Bénin passe au second tour.
Oui, en écartant le Niger, les Béninoises, déjà vainqueurs 6-1 à l'aller à Niamey, ont récidivé hier à Porto-Novo, cette fois par 7-1, et affronteront le Maroc au second tour. Une première dans cette catégorie reconnaît le sélectionneur Ouzerou Abdoulaye. Pour lui, le Niger n'est qu'une étape. Le plus dur reste à venir, déjà face au Maroc.
Heureux parce que je dois vous dire que j'ai pas dormi hier parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'on a eu beaucoup de cas positifs à la Covid-19. Donc vous avez remarqué qu'il n'y avait que 14 joueuses, 3 sur le banc de touche. Donc on a vraiment eu peur parce que c'était compliqué. Tout le milieu de terrain est parti. Les 3 du milieu de terrain ont disparu par rapport au match aller. Donc on est bien content effectivement de passer ce tour maintenant. Pas de triomphalisme. Quoi. Il faut, parce qu'on a dominé le Niger. On peut être aussi dominé par le Maroc et par les mêmes scores. Donc il faut vraiment rester tranquille. Le Maroc, c'est deux crans au-dessus.
Football toujours, et ce nouveau sacre du CR Belouizdad en Algérie.
Déjà sacré la saison passée, le club basé à Alger a décroché un nouveau sacre en s'imposant 4-2 sur le terrain de l'USM Alger à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée du championnat. Avec 5 points d'avance sur son dauphin, l'entente de Sétif, le Shabab ne peut plus être rejoint. Il s'agit du 8e titre de son histoire, quart de finaliste de la Ligue des champions la saison passée et qui devient la première équipe à conserver son titre de champion depuis l'entente de Sétif en 2012 et 2013.
Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, des civils ont encore été tués dans la région de Tillabéri vendredi dernier alors qu'ils accomplissaient leur prière du soir. Au moins 17 habitants du village de Thème, dans la commune de Lanzourou, ont été massacrés par des hommes armés venus à moto. Une attaque qui intervient après celle qui a coûté la vie à 37 autres civils le lundi 16 août. Une situation qui préoccupe beaucoup dans le pays, nous dit notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Alors qu'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Défense nationale se rendait samedi au niveau du village où les groupes armés ont encore massacré 15 personnes vendredi dernier pour apporter aux rescapés réconfort et soutien de l'État, les ressortissants de la région de Tillabéri résidant à Niamey étaient eux réunis en assemblée générale.
Puisque le gouvernement a quelque part failli, il faut que nous nous défendions nous-mêmes. Nous avons fait cette annonce.
Amadou Harouna Mega, porte-parole du comité des ressortissants de la région de Tillabéri.
Il y a eu beaucoup de morts. Nous, nous disons que trop, c'est trop. Nous avons cru qu'avec ce que le président de la République a dit à l'occasion de son investiture, il allait mettre en œuvre tout ça, mais jusque-là, rien. Nous avons pensé que après Difa, il va être à Tillabéri.
La dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays inquiète également les parlementaires de la région de Tillabéri.
L'heure est grave. Les populations sont traumatisées et ont le sentiment qu'elles sont abandonnées à leur triste sort. Il est grand temps de jeter un regard rétrospectif pour mieux scruter les actions à venir. De faire agir avec promptitude les FDS et en particulier les interventions aériennes. De rendre effectives les mesures d'accompagnement aux populations afin d'atténuer les impacts de l'état d'urgence.
Les organisations de défense des droits de l'homme ont elles aussi donné de la voix. Sita Adamou, président de l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme.
De repenser les stratégies sécuritaires qui ont montré leurs limites. De multiplier les bases militaires nigériennes dans la zone dite des trois frontières. De renforcer le dialogue communautaire, FDS, communauté, pour une meilleure coproduction de la sécurité.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Tchad réduit son contingent de moitié dans la zone des trois frontières. L'annonce en a été faite ce week-end par les autorités tchadiennes, qui parle d'un redéploiement stratégique. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé en février dernier dans cette zone pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Ce retrait s'effectue alors que des attaques meurtrières se multiplient dans la région depuis des semaines. Abdoulaye Barry est journaliste et expert en questions de sécurité au Sahel. Joint à Ouagadougou par Bagassi Koura, il revient d'abord sur la multiplication des attaques.
Vous savez qu'au Sahel, actuellement, on est en saison des pluies. Il pleut énormément beaucoup et donc ça rend les terrains impraticables pour les forces de défense dans leur opération. Et ça facilite la tâche donc pour les groupes terroristes qui peuvent se déplacer facilement, aller derrière une rivière. Et avec la saison des pluies, c'est plus facile pour les groupes terroristes de profiter d'une nuit sous la pluie, creuser et mettre une mine. Et ensuite, quand la pluie va venir, les traces sont effacées. Le deuxième élément est lié aussi à la baisse de l'intensité des combats entre les deux grands groupes terroristes, notamment le GISIM et puis l'État islamique.
Alors, et c'est dans ce contexte de recrudescence des attaques qu'on apprend ce samedi que le Tchad va réduire de moitié ses troupes au Sahel, notamment dans la zone des trois frontières. Quelles sont les raisons avancées?
Bon, il y a deux raisons fondamentales. La première, elle est d'ordre économique. Vous savez que le G5 Sahel est confronté énormément à ce défi de financier. Il y a eu beaucoup d'annonces qui n'ont pas été concrétisées. Donc, le G5 souffre véritablement de problèmes financiers. Alors que il faut soutenir cette force qu'on a envoyée. Il faut payer des perdièmes donc aux militaires. C'est très lourd à supporter. Donc, en février dernier, le Tchad a décidé d'envoyer 1200 hommes pour soutenir les forces en place. La deuxième raison, à mon avis, qui est une raison pratique, c'est que 1200 hommes, c'est très lourd à supporter. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'ils sont venus avec du matériel militaire très lourd. Ce sont des chars à chenilles, comme on l'appelle dans le jargon militaire, qui ne sont pas adaptés sur le terrain avec le sable. Donc, le retrait de ces 600 hommes-là vise beaucoup plus donc, à redimensionner la force. Un, que le bataillon tchadien, qui est composé de 1200 hommes, répondent aux normes du G5 Sahel, c'est-à-dire pour le G5 Sahel, un bataillon, ça fait 650 hommes, alors que le Tchad a envoyé un bataillon supplémentaire de 1200 hommes. Et ensuite, on fait une force assez légère, donc pour être mieux adaptée aux défis du terrain, facilement entretenable, on va dire, et qui peut se déplacer avec des moyens légers, des moyens que les terroristes eux-mêmes utilisent, c'est-à-dire des motos et des pick-up.
Alors, on avait fondé beaucoup d'espoir sur la force du G5 Sahel. Est-ce qu'elle répond aux attentes ?
De parler de la force du G5 Sahel, c'est réinterroger la stratégie globale même du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la force, elle fait ce qu'elle peut. Il y a des bataillons qui sont sur place. On était à 7 bataillons. Aujourd'hui, on a 8 bataillons. Le G5 Sahel est né sous deux piliers, le pilier développement et le pilier sécurité. Mais dans la pratique, on s'est rendu compte qu'au fil des années, le pilier développement a été abandonné au détriment donc du pilier sécuritaire. Or, on sait qu'on ne peut pas apporter une réponse adéquate au défi sécuritaire avec l'hypermilitarisation donc de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le tout sécuritaire montre ses limites au Sahel, comme ça l'a montré en Afghanistan où les talibans ont pris le pouvoir il y a quelques jours.
Abdoulaye Barry, journaliste et expert en questions de sécurité au Sahel.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibault avec vous. Le Tchad a annoncé samedi avoir divisé par deux ses effectifs au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, déployée dans la zone des trois frontières, alors que les attaques se multiplient. 19 villageois ont été tués samedi dans la région de Tillaberi et vendredi, une nouvelle attaque au Burkina Faso a fait 80 morts. Que faire contre le terrorisme au Sahel? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou venez en discuter en direct dans À votre avis à 18h05, temps universel sur l'antenne de VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les équipes de l'INRB, Institut national des recherches biomédicales, travaillent sur des stratégies alors que l'on anticipe l'arrivée d'une quatrième vague de COVID-19 qui s'annonce très mortelle selon les études des experts congolais réunis au sein du secrétariat technique national de la riposte COVID-19 RDC. De son côté, la population doute des chiffres donnés par l'INRB sur les cas positifs qui tournent autour de 54 800, estimant qu'il y a exagération de la part des autorités sanitaires. Ces chiffres sont collectés dans les familles consultant les hôpitaux qui prélèvent et effectuent les analyses centralisées dans les laboratoires de l'INRB. Des détails avec notre correspondant Patrick Lupika. À Kinshasa.
Secoué par la troisième vague avec les pénuries d'oxygène et de médicaments qui affectent les hôpitaux de la RDC, le pays veut changer de stratégie en agissant le plus tôt possible. Docteur Jean-Jacques Miembe Tamfoum, coordonnateur du secrétariat technique national de la riposte COVID-19 RDC.
Nous insistons beaucoup pour que la population continue à observer les gestes barrières parce qu'il n'est pas impossible que nous ayons une quatrième vague. Une quatrième vague que nous craignons, qui pourra peut-être être beaucoup plus meurtrière que la troisième vague que nous venons donc, n'est-ce pas, de vivre. Soyons donc vigilants et continuons à garder donc les mesures barrières. Et maintenant que les vaccins vont venir, si nous combinons les deux mesures, il est possible que nous arrivions à la maîtrise, n'est-ce pas, de ce virus.
Dans la société congolaise, le doute s'installe de plus en plus sur le nombre des cas positifs, des échantillons qui sont exclusivement traités à l'INRB, Dr Justus Ntio Mbeta, chargé des opérations du secrétariat technique national de la riposte COVID-19 RDC.
Sur toute l'étendue du pays, les données partent des ménages Donc, la personne va consulter un centre de santé, on les prélève. L'échantillon va au niveau de l'hôpital ou à l'INRB qui est représenté dans la zone de santé. Et chaque zone de santé remonte les données au niveau de la province. Et toutes les 26 provinces remontent les données au niveau national. Et ça, c'est pour tous les pays. Mais pour Kinshasa, tout est centralisé, arrive d'abord à l'INRB, au niveau du laboratoire, qui fait la compilation et qui nous donne pour publier.
Le docteur Justus Ntiombeta soutient que les données sont vraies et réelles.
Les données que nous avons, au niveau de notre base, sont nominatives. On ne peut pas inventer ni créer quelqu'un. Il y a les noms, il y a l'adresse, il y a l'âge, il y a les sexes. Et tout est clair. À la première vague, les gens disaient qu'on achetait des cadavres. Et l'inspection a audité et a regardé, a suivi ménage par ménage, parce que les données que nous avons, c'est vraiment avec nom, âge, sexe et adresse. Donc ce ne sont pas des données qui sont fabriquées. La personne qui veut vérifier peut passer. Nous avons une base de données et tout est clair.
Face au danger, la population réclame une augmentation de l'approvisionnement en plusieurs types de vaccins. Kinshasa, Patrick Lupika, VOA Afrique.
Au Gabon, les athlètes paralympiques sont en route pour les Jeux de Tokyo. Un voyage difficile pour les deux représentants du pays. Ils vont débuter la compétition dans l'attente de l'appui financier de l'État. Quant à la Fédération gabonaise paralympique, elle est privée de subventions depuis plus de 5 ans, nous dit notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Audrey Fabiola Mengue fait partie des athlètes paralympiques attendus à Tokyo. Elle concourt au poids et au javelot. Avec des jambes atrophiées, la jeune dame de 31 ans affiche un état d'esprit de vainqueur en cette veille de compétition.
Me donne corps et âme afin que je puisse ramener une médaille, chose qui n'a pas encore été faite par une tierce personne handicapée du Gabon.
Avant le meeting de Tunis, où ils avaient validé leur ticket en mars dernier pour les Jeux paralympiques, les athlètes gabonais s'entraînaient dans des conditions difficiles. Une situation qui s'est nettement améliorée ces dernières semaines grâce à un soutien matériel de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo-Ondimba. De quoi doper le moral de David Mokanyi, amputé du bras droit et qui se prépare pour le 100 et le 200 mètres hommes.
J'ai une chance. Parce qu'en ce moment, mes performances sont très bonnes au niveau national. Et maintenant, avec la volonté et la motivation, me permettront de me qualifier pour le second tour et ramener une médaille pour mon pays.
John Walker Onanga est le coach qui suit au quotidien le parcours de David Mokanyi. Il témoigne.
Quand je l'ai eu, il était à 13 secondes 30 centièmes. Ça, c'est le temps qu'il a fait en Tunis, sauf qu'il n'a pas pu faire le minimum. Le dernier test qu'on vient de faire maintenant, il a couru à 11,85 et au deuxième temps, il a fait 11,76. Donc, il y a beaucoup de progrès là-dessus.
Au début des préparatifs de la compétition, la sélection du Gabon comptait sur 3 athlètes, mais un a dû abandonner. Il s'agit de Edmond Gombi, coureur de 100 mètres sur tricycle. L'unique représentant du Gabon aux Jeux de Rio en 2016 ne sera pas à Tokyo, privé de subventions depuis 2014. La Fédération Handisport du Gabon fait plutôt voyager David et Audrey en espérant qu'il n'a plus financé les dernières minutes du gouvernement. Luc Nguema, président de la Fédération Gabonaise Paralympique.
Nous sommes en contact permanent avec le secrétaire général qui nous donne quelques informations sur l'avancée du budget. Bon, je pense que jusque-là, il nous a dit d'attendre peut-être d'ici mardi. Une situation peut se décanter. Bon, mardi, on va dire, c'est la date butoir. Donc, on est vraiment inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que nous allons aller? Dans quelles conditions? Sans argent?
Jusqu'à leur départ de Libreville, les athlètes paralympiques du Gabon n'avaient pas encore bénéficié de l'aide budgétaire de l'État. Mais de l'avis des responsables du ministère gabonais des Sports, la situation serait sur le point d'être décantée. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboukia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.